Les rendez-vous de l'Opéra Studio.
Open Studio Stammtisch.
Las citas de l'Opéra Studio.
Opera Studio Rendezvous.
和科尔玛歌剧工作室的约会。
Let's go meet the Opera Studio.
Dita famete l'Opéra Studio.
Встреча с оперной студией.
Opéra Studio, bonjour.
Les rendez-vous de l'Opéra Studio.
Eh bien, bonjour à tous, je suis Sandrine Abello. Je suis la directrice musicale de l'Opéra Studio, qui, comme vous le savez, est basée à la Comédie de Colmar, bien évidemment. C'est une structure qui existe depuis 1998, qui a pour but d'accueillir des chanteurs de nationalités différentes, des chefs de chant pianistes, ainsi que une chef d'orchestre jeune, de moins de 30 ans, pour parfaire leur formation et les mettre sur les planches dans une situation professionnelle auprès de chanteurs, comédiens, metteurs en scène, chefs d'orchestre, décorateurs, enfin équipe artistique professionnelle. Et aujourd'hui, voici que naît notre première émission, qui, je l'espère, sera suivie de beaucoup d'autres. Et nous accueillons aujourd'hui Monsieur Levi Gerck, qui est pianiste chef de chant.
Bonjour Sandrine.
Bonjour. Et Oleg Volkov, qui est chanteur lyrique.
Bonjour tout le monde.
Voilà, et nous allons passer 30 minutes ensemble et je vais poser tout plein de questions à nos deux jeunes artistes. Alors la toute première va tomber sur notre ami Levi. Levi, d'où viens-tu ?
Moi, je viens du Missouri, aux États-Unis. C'est un état au centre des États-Unis.
Très très bien, très très bien. Et Oleg, tu viens d'où toi ?
Moi, je viens du sud de la Russie, de Krasnodar. C'est un lieu principal de la région des Cosaques. C'est la région plus chaude de la Russie. Donc, les Cosaques sont là, à Colmar.
Voilà, voilà. Et donc, vous êtes tous les deux en première année à l'Opéra Studio.
Oui,
c'est arrivé
oui,
cette année. Et je voudrais savoir, cher Levi, à quel âge tu as commencé à jouer du piano et même, je pense, à chanter, parce que toi, tu es chanteur également.
Oui, oui, je fais les deux. Donc, alors, moi, j'ai commencé mes premiers cours de piano avec ma mère, qui m'a donné mes premiers cours, à l'âge de 6 ans. Et oui, j'avais commencé, j'avais continué le piano jusqu'à le présent moment. Et alors, à 16 ans, j'ai commencé le chant.
Bien.
Et donc, j'ai fait une licence en chant et piano. Et puis, je me suis concentré plutôt sur le piano après ça.
D'accord, d'accord. Très, très bien. Bah, écoute, tu as bien fait parce qu'aujourd'hui, tu es là en tant que pianiste chef de chant.
Oui.
Bon, on est très heureux de t'accueillir.
Pratique.
C'est très, très bien. C'est très, très bien. Oleg, alors, cher Oleg, à quel âge as-tu commencé à chanter ?
Très tard.
Ah.
Très, très tard.
Oui, c'est vrai que tu es très, très vieux.
Non, d'abord, l'art était toujours dans ma vie, donc j'étais toujours entouré par l'art. J'ai dansé, j'ai commencé ma vie artistique comme danseur dans un collectif, comment on dit ça en français, dans un collectif de petits centres culturels, dans un petit village. Mmh. Ça tient le nom de Maxim Gorky.
Très bien.
Voilà, l'écrivain russe, très
oui.
connu. Et peu à peu, j'ai commencé à réfléchir, peut-être je veux chanter. J'ai eu cette envie à l'intérieur. Et à l'âge de 18 ans, j'ai commencé peu à peu chanter. Et j'ai découvert ça, j'ai pas pensé que j'ai eu cette possibilité de chanter. Et c'était très, très, très surprenant.
Et d'accord, et donc tu as fait tes études d'abord ton pays, et ensuite,
oui.
Je pense que tu es venu en France, c'est
oui,
pas ça.
Mais en Russie, j'ai fait mes études comme linguiste, comme traducteur,
oui.
C'était les langues étrangères et les relations interculturelles, les langues, l'anglais, l'allemand, l'italien, et après, quand je suis arrivé là, en France, à Toulouse, j'ai appris la langue française. Voilà, donc, comme ça.
C'est très, très bien. Bravo, bravo. C'est très, 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 très riche. Et toi, Levi, où as-tu étudié?
Alors, j'ai commencé mes études dans le Missouri, d'où je viens, à une toute petite université. C'est là où j'ai fait ma licence en chant et piano. Et après ça, j'ai déménagé en Floride pour faire mon master et doctorat en piano, accompagnement, chef de chant, musique de chambre, toutes les choses comme ça.
Très bien, très très bien, très très bien. Et donc, tu as choisi finalement de te spécialiser parce que tout ça demande beaucoup de travail. À un moment, il faut choisir.
Oui, tout à fait.
Et donc, tu as choisi l'option pianiste chef de chant.
Oui.
Alors, le chef de chant est une personne très 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 importante dans le milieu lyrique, mais très peu de personnes connaissent exactement la fonction qu'a un pianiste chef de chant. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ça en quelques mots, s'il te plaît?
Oui, je peux essayer.
Vas-y.
Comme tous les métiers, c'est un métier qui englobe beaucoup de facettes. Il y a plein de choses à faire. Mais en quelques mots, je suis un pianiste, tout d'abord. Je suis un pianiste qui travaille avec les chanteurs. Parce que quand on chante, et je parle un peu de mon expérience personnelle là, quand on chante, c'est très difficile à entendre le son qu'on fait, en fait. Autrement dit, c'est difficile à entendre le son que le public va entendre.
Oui, parce qu'en effet, oui, parce le son qu'on entend à l'intérieur est différent de celui que le public
écoute. C'est ça,
oui,
c'est ça. On est trop près à l'instrument, en fait.
C'est
ça. Et les résonateurs font en sorte qu'on n'arrive pas vraiment à entendre le vrai son qui passe au public.
Mais en fait, toute personne, même non chanteuse, a connu ce type d'expérience. Par exemple, quand on entend un message qu'on a laissé à un ami,
oui.
Et on se dit, non mais c'est ça ma voix, mais non, c'est pas ça, c'est sûrement l'appareil qui transforme.
Oui.
En fait, non, c'est vrai
que... C'est ça la vraie voix.
Voilà, et c'est très difficile pour un chanteur de savoir quel son réel est perçu par le public. Et c'est là que le rôle de chef de chant est très 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 important.
C'est ça.
Parce que justement, c'est l'écoute, c'est l'oreille extérieure.
C'est ça. Donc je suis là pour ça, je suis là pour aider avec l'apprentissage des partitions. En ce moment, par exemple, je remplace l'orchestre pendant les répétitions scéniques des productions. Donc, je fais ça en ce moment à la Comédie, avec la production qu'on va parler de ça tout à l'heure.
Oui.
Et donc, c'est à peu près ça, le métier.
Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est un rôle très, très important. Il faut que le chanteur ait confiance dans son chef de chant.
Oui.
Et il faut établir cette relation. Et puis ensuite, le travail peut avancer et tout le monde est heureux parce que c'est quand même très interactif et c'est magnifique. Et puis, ils ont beaucoup de chance d'avoir un pianiste qui lui-même a été chanteur, donc a cette expérience du chant. Et donc, c'est plus, comment dirais-je? Plus facile, je pense.
J'espère.
Oui, ça c'est sûr. Et donc, mon cher Oleg. Alors, le métier d'artiste lyrique, de chanteur lyrique. Alors ça, c'est un petit peu plus dans la lumière. Ça, on en a une idée un petit peu plus précise. Mais est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu ton quotidien et comment on construit un rôle et comment on travaille au quotidien, etc., etc. Il n'y a pas que les paillettes.
Tout à fait.
Ah, oui, mais c'est ça.
Tout d'abord, personnellement, pour moi, il faut déterminer l'émotion ou les émotions qui te guident dans ton rôle. Parce que s'il n'y a pas des émotions, s'il n'y a que de la voix, c'est que de bruit.
Oui, tout à fait.
Personnellement.
Oui.
Et dès que tu as trouvé tes outils, tes émotions, comme ça tu peux acter, tu peux faire les choses comme ça, tu peux chanter. Et pour moi, c'est très, très important. Souvent, quand j'ai regardé les grands, grands artistes sur la scène, j'ai remarqué que tout d'abord, ils sont des artistes et qu'après, ils sont les chanteurs. Et c'est juste une chose parmi des autres choses, la voix.
C'est le vecteur, en fait. C'est le vecteur des émotions.
Oui,
en fait, si la voix ne transmet aucune émotion, aucun intérêt d'être artiste lyrique. C'est ce que tu nous dis.
Mm-hmm.
Oui, je crois que tu as raison. Je crois que tu as raison. Et donc, ta tessiture, c'est-à-dire le type de voix que tu as, comment s'appelle-t-elle?
C'est la voix qui s'appelle baryton-basse. dans les langues étrangères, c'est basse-bariton. Oui. C'est intéressant. Pourquoi dans la langue française...
Ah, je fais ce faute toujours. C'est bariton basse, en
oui, français. C'est ah, bariton basse. Parce que c'est le bariton qui est basse.
Bah, ça dépend. Ça peut être aussi une basse qui est bariton. Ouais. Enfin, c'est vrai que voilà. Parfois, on le dit un peu dans les deux sens. Moi qui suis française, je l'ai entendu dans les deux sens, finalement. Okay. Mais finalement, ça représente la même personne, donc c'est tout ce qui compte.
Voilà, voilà. Il y a aussi, comme partout dans tous les autres voix, il y a des différences, il y a des basses barytons lyriques, dramatiques, et tout, etc., etc. Mais c'est que la couleur
ouais.
de voix, la tessiture de basse bariton se trouve entre la voix du basse et la voix du bariton. La différence, c'est que en demi-ton.
D'accord.
Entre la basse, la voix du basse et la voix du bariton. Quand je parle dans demi-ton, c'est-à-dire que les notes pivots, les notes de passage, il n'y a qu'un demi-ton de différence.
D'accord.
Mais ça donne la différence énorme et immense pour la palette de couleurs qu'on peut proposer. Pour l'art, pour les rôles.
Pour les rôles, les personnages, les différents rôles
oui,
qui sont...
Oui, oui. Oui.
Alors, succinctement, je rappelle à nos auditeurs qui le savent certainement, mais je fais une petite révision, on a plusieurs hauteurs, comment dirais-je, amplitudes vocales. Et disons qu'on a chez les messieurs des voix graves, comme vous entendez la voix de Oleg aujourd'hui. On a des voix un petit peu plus aiguës qui sont quand même dans le registre un peu grave, qui sont les voix de baryton. Et très bientôt, vous aurez la chance d'entendre à ce micro Monsieur Damien Gastel, qui est lui-même baryton. Et donc c'est une voix donc encore grave, mais un peu plus allant vers des notes plus aiguës, avec dans une couleur un petit peu plus lumineuse, un petit peu plus claire. Je ne sais pas comment on peut dire. Il faudra venir les écouter chanter, vous ferez une idée. Mais c'est une voix un petit peu plus qui monte un petit peu plus haut et qui a une couleur un petit peu plus solaire, sans vouloir blesser notre ami Oleg, qui est lui-même très solaire. Mais donc, et ensuite on a des voix de messieurs qui montent encore plus haut et qui sont les voix de ténor. Voilà. Et donc chez nous, on a un ténor qui est notre ami Damien Arnold, que vous entendrez aussi à ce micro un de ces jours. Ce n'est pas encore décidé, mais il viendra. Et là, qui nous vient d'Australie. Enfin, il est sur Colmar. Hein, il viendra pas d'Australie tout exprès. Mais donc, vous l'entendrez parler. Et donc, tout ça pour dire que nous avons des tessitures très différentes et qui on peut couvrir toute une large comment dirais-je palette de hauteur de son. Voilà, donc en gros on a les basses, les barytons et ensuite les ténors. Voilà, en gros, hein, parce qu'après c'est très 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 nuancé, mais déjà quand on part sur ces bases là on a une bonne idée de ce que sont les tessitures chez les voix d'hommes. Alors, je vais continuer cette petite interview en vous parlant de l'enfant et les sortilèges, parce qu'en fait, c'est notre actualité, l'enfant et les sortilèges. Oui. Donc, ça a été écrit par Monsieur Maurice Ravel sur un livret de Colette. Et on dit que la première rencontre entre Ravel et Colette a été un petit peu froide, surtout du côté de Ravel, tout simplement parce qu'il était très très impressionné par Colette. Voilà. Et donc oui, on peut comprendre. Mais bon, elle aurait pu être impressionnée elle-même par Ravel parce que bon, ouais. C'est pas mal non plus comme personnage et comme artiste. Et donc nous travaillons en ce moment, nous répétons à la Comédie de Colmar Cet enfant et les sortilèges, dont la première aura lieu le 15 décembre à 15h, très facile à retenir, nous y reviendrons. Et Livaï, qu'est-ce que tu peux dire sur la préparation de cet ouvrage? Comment tu as abordé cette partition?
Bon, l'enfant et les sortilèges, en fait, c'est l'opéra sur lequel je travaillais juste avant le premier confinement aux États-Unis, quand j'étais aux États-Unis. Donc, mais c'était dans une version anglaise. Donc, c'est-à-dire que c'était pas vraiment la version de Colette et pas vraiment la version de Ravel. Donc, je suis bien content de pouvoir revenir à cette œuvre ici à Colmar dans la vraie version de Colette et Ravel. Mm-hmm. On a commencé à travailler avec les chanteurs il y a, je sais pas, 4 semaines.
Oui,
sur les préparations musicales.
Oui.
Et c'est là où j'ai passé beaucoup de temps avec chaque chanteur pour apprendre la partition, pour parler du texte, de la musique, des phrases et tout ça. Et maintenant, on a commencé depuis la semaine dernière les répétitions scéniques.
Oui, c'est ça, mise en scène.
Les mises en scène.
Voilà, c'est ça.
Donc
ça veut dire que tous les chanteurs savent leur partition parfaitement par cœur, bien évidemment, parce qu'il faut mettre la mise en scène en place.
Et ça change tout, et donc c'est une belle découverte de cette œuvre.
Mais ça c'est une œuvre magnifique, ça c'est évident. Et donc, nous allons revenir sur les deux rôles qu'interprète Oleg dans cette partition. Mais avant, je vous raconte un petit peu l'histoire. L'histoire, c'est un enfant de 7 ans. Qui est assis, qui est grognon devant ses devoirs d'école et il en a assez de faire ses devoirs. Et donc, il n'a plus envie de travailler. Donc, il a décidé de se rebeller. Il ne travaillera plus, c'est dit. Et donc, sa maman vient le voir et lui dit « Alors, bébé a été sage, il a fini sa page. » Et non, en fait, non, il n'a rien fait. Il a taché d'encre le tapis, il fait des dessins, il n'a plus envie. Il en a assez. Et d'un coup, il est très énervé. Il est très énervé, il a décidé de tout casser. Donc, il jette la tasse chinoise, pardon, et la théière. Il martyrise l'écureuil qui est dans sa cage. Il tire la queue du chat. Il attise la braise avec un tisonnier, renverse la bouilloire. Il déchire son livre, arrache le papier peint, démolit la vieille horloge. Enfin, bref. Et là, il crie, je suis libre, libre, enfin libre. Et il s'assied. Et il s'assied sur un fauteuil. Et qui chante le fauteuil? Oleg. Alors Oleg, qu'est-ce qu'il dit ce fauteuil à cet enfant?
Le fauteuil, c'est comme c'est le premier...
La première chose en fait, parce que les sortilèges, c'est ça en fait, les objets se mettent à parler parce qu'en fait ils se vengent de la méchanceté que l'enfant a déployée et de la violence qu'ils ont subie.
Voilà, donc c'est exactement ça.
Il chante tout seul ou il est en duo, non, je crois?
Non, c'est en duo pour un fauteuil et une bergère.
Voilà,
et le texte que nous voilà donc débarrassés à jamais de cet enfant au talon méchant.
Voilà, au talon méchant.
Plus de coussins pour son sommeil, plus de sièges, etc., etc. Et le repos pour lui que sur la terre nue.
Voilà.
Et encore,
qui sait? Oh là là, c'est mystérieux, c'est mystérieux. Je vous propose d'écouter un extrait de la version qui a été donnée à la Philharmonie de Paris il n'y a pas si longtemps, en automne 2021. En octobre, dirigé par Mikko Franck. Et donc, vous allez entendre cet extrait du duo fauteuil bergère.
Votre serviteur, bergère.
Et voilà, dans cet extrait, chanté, donc le fauteuil était chanté par Monsieur Paul Gay et la bergère par Anaïck Morel, dirigée par Mico Franck à la tête de l'Orchestre Philharmonique de Radio France. Et donc maintenant, je vous propose de continuer notre petite publicité finalement pour l'enfant et les sortilèges, vous préciser que l'ensemble des jeunes artistes de l'Opéra Studio est actuellement donc en répétition sur cette production et que nous allons donner nous une version pour piano à quatre mains, flûte et violoncelle. Alors, les instrumentistes seront Didier Puntos, qui lui-même a fait cet arrangement. Il sera au piano avec Levi pour certaines représentations, notre pianiste chef de chant invité de ce jour, et aussi Rosa pour d'autres dates, qui est la deuxième pianiste, enfin l'autre pianiste chef de chant à l'Opéra Studio cette année pour la promotion 21-22. Et les flûtistes et violoncellistes seront des jeunes artistes de la IR, dont je vous donnerai les noms plus tard quand j'aurai retrouvé mes notes. Mais nous allons continuer avec les petites questions sur nos amis invités Levi, chef de chant à l'Opéra Studio, et Oleg, baryton basse ou basse baryton, je ne sais plus dans quel ordre il faut que je le dise, pour savoir si après cet opéra de l'enfant et les sortilèges que nous allons donner dans tout le Grand Est avec plus presque 40 dates, ils seront au point, je vous assure, vous pourrez venir les voir. Levi, à part ce travail énorme de chef de chant, dans la vie, quels sont tes hobbies?
Bon, oui, quand j'ai un peu de temps libre, j'aime bien randonner, j'aime bien les choses très simples, j'aime bien me balader dans la ville. Je joue beaucoup de jeux vidéo, en fait.
Ah oui?
Donc, quand j'ai un peu de temps, oui, c'est un truc que j'aime bien faire. J'aime bien lire. Ouais. En ce moment, je lis une biographie de Schubert.
Oh, très sérieux, notre ami.
C'est un compositeur que j'adore. Et je découvre plein de choses sur lui. Et
très certainement.
Et donc, oui, des choses très simples. Mais...
Oh, mais c'est bien. Mais parce qu'on en a besoin, en fait. Parce que c'est beaucoup de concentration d'être chef de chant. Et notre ami Oleg?
Les mêmes choses, j'adore randonner, mais quand vous aviez posé cette question tout à l'heure, j'ai dit, ok, je suis un chasseur pour les émotions et pour l'inspiration, parce que...
Alors, développons.
Explique-nous. Parce que la semaine dernière, par exemple, on a eu les répétitions toute la semaine, dès lundi jusqu'à samedi, et samedi le soir je suis parti à Strasbourg pour partir à Bruxelles pour voir Loulou de Alban Berg avec Barbara Hannigan dans le rôle principal, et le soir même, la même soirée, je suis revenu à Strasbourg, je suis arrivé à 6h le matin pour être à l'heure pour notre répétition de l'enfant.
Oui, un seul, ça suffit parce qu'il est déjà très turbulent. Ouais.
Mais cette quantité et qualité des émotions, de l'inspiration, je pense que j'ai jamais vu dans ma vie, c'était le morceau le plus émouvant, le plus... Je suis essoufflé par cet opéra. Donc, je cherche des choses comme ça dans ma vie.
Pour te remplir, en fait, pour trouver une résonance.
Tout à fait. C'est pourquoi j'habite à Colmar, là, pas à Strasbourg, parce que pour les participants de l'Opéra Studio, on a le choix, le choix privilégié de choisir entre Strasbourg et Colmar. Comme ça, je choisis Colmar pour enrichir mon âme avec des images exceptionnelles choisies de cette ville magnifique.
Ah, ça c'est vrai. ça c'est vrai. Je ne suis pas colmarienne moi non plus, mais quand même c'est très très beau. Et puis on a la nature à deux pas. On peut
incroyable.
S'évader très facilement. Et oui, et c'est source aussi là d'inspiration parce qu'il faut un peu se reposer et tout ça, trouver un équilibre finalement dans notre intérieur artistique, n'est-ce pas, messieurs? Alors j'ai retrouvé le nom des flûtistes qui eux aussi joueront en alternance dans notre production. Donc je suis désolée à l'avance parce que je pense que je vais brécher leur nom. Peut-être pas pour rien que j'avais perdu ma feuille. Alors, Miguel Astraukaite et Noah Berkovitch. Ça, ce sont les deux flûtistes qui seront en alternance sur nos représentations. Et le violoncelliste sera Octave Diaz. Voilà, donc tous trois issus de la IR de Strasbourg. Bien, je pense que nous allons arriver au terme de notre entretien. Il ne me reste plus qu'à vous remercier. Livaï et Oleg, pour ce moment très agréable passé avec vous.
Merci à toi.
Écoutez, oui, je vous remercie de me remercier. Et donc, je rappelle que notre production de L'Enfant et Sortilège, en train d'être répétée pour vous à la Comédie de Colmar, sous la direction, la mise en scène donc d'Émilie Caplier, qui est co-directrice de la Comédie de Colmar, sera donné pour la première fois à Colmar, enfin notre production à nous, le 15 décembre à 15h, donc à la Comédie, mais beaucoup d'autres dates vont par la suite s'égrener tout au long des semaines à venir, à Colmar, à Strasbourg, à Mutzig, à Sainte-Marie-aux-Mines, à Bar-le-Duc, à Mulhouse, voilà, et parmi toutes ces dates, beaucoup de dates réservées aux scolaires, donc voilà, venez nombreux, faites venir vos enfants, ce sera un très très beau spectacle, la musique est sublime, le livret magnifique, voilà, à très bientôt, et je vous souhaite à tous une très bonne journée, au revoir.
Les rendez-vous de l'Opéra Studio.
Open Studio Stammtisch.
Las citas de l'Opéra Studio.
Opera Studio Rendezvous.
和科尔玛歌剧工作室的约会。
Let's go meet the Opera Studio.
Di trafamette opera studio.
Встреча с оперной студией.
Opera Studio Boyara.
Les rendez-vous de l'Opera Studio.